des rendez-vous au premier virage.
Voilà, c'est là où on peut
jouer, c'est là où on peut jouer. Et il y va, et il y va, et il va, et il se touche,
quel coup.
Il s'accroche, et il
va. Hey Lewis, it's hammer time.
Accélère, accélère.
Toto,
yes.
It's called a motor race, okay?
Sorry,
we went to car racing.
This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together?
On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Magazine Co. C'est notre quatrième épisode de cette saison 2024. Et c'est un épisode consacré au Grand Prix d'Australie, le troisième de la saison. Et oui, après le Moyen-Orient avec Bahreïn et Jeddah, après avoir encore vu Max, Moadib, Verstappen écraser la concurrence, nous nous retrouvons en Australie. Et qu'avons pu nous voir ce week-end ? Eh bien, on a pu voir un doublé Ferrari incroyable, Red Bull en fait inoffensif sans Verstappen. On a pu voir aussi un week-end complètement à oublier pour Mercedes, Tsunoda qui en impose chez Racing Bulls. Et puis, on a pu aussi encore voir, malheureusement, Alpine, toujours au fond du seau, qui semble alimenter son moteur avec un mélange d'espérance et de résignation. Et bien, pour parler de tout ça et de plein d'autres choses, Jacques Lafritte, on retrouve l'insigneul cette fois-ci. C'est pas la Ligue des Champions, non, actuellement ? Qu'est-ce que c'est ?
Bonjour, bonsoir. Non, c'est le niveau un peu en dessous. C'est un match amical. Le seul côté satisfaisant pour le Parisien qui parle, c'est la blessure de Jonathan Clauss, qui ratera sûrement le classique ce dimanche.
Faut mais pas sinon, souhaiter, il c'est rejoint. Pas, c'est pas sympa. Faut pas souhaiter le malheur.
C'est absolument pas sympa.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
C'est comme les Marseillais qui sifflent les joueurs.
Je pense qu'au
PSG.
Je pense que tu penses à relire la charte éthique de Radio Magazine Co. Quand même, tu vois, on n'a pas beaucoup de contraintes, mais quand même souhaiter le malheur pour les adversaires, ce n'est pas gentleman, ça.
Non, je ne souhaite pas. Je constate juste. Non, mais en fait, ouais, c'est vraiment.
Vraiment, je suis trop content. Ouais, c'est bon.
Non, c'est vraiment pas top pour les Marseillais, parce que ce que je disais, c'est le cinquième Marseillais blessé pendant la trêve internationale.
Ok.
Donc, ils n'avaient pas déjà une profondeur d'effectifs importante. Là, ça réduit les choix de Jean-Louis Gasset.
Ok.
Pour d'accord. Le classique. Mais sinon, on en parlera. À part un fait surprenant depuis une quarantaine de courses, je suis pas forcément emballé par ce Grand Prix. Parce que j'ai vu quand même des influenceurs ou des créateurs de contenu Formule 1 lâcher des 4 sur 5 en notes sur le Grand Prix.
Mais nous, de toute façon, on se fait pas influencer par les influenceurs. Nous, on ne mange pas de ce pain là. Mais avec nous, on a encore une fois le plaisir de retrouver devant le micro Fernando Gaspacho. Franchement, j'ai l'impression que c'est la quatrième émission d'affilée pour Fernando. Quel effet ça fait ?
Bonjour, bonsoir. Écoutez, l'effet que ça me fait, c'est que j'ai passé un excellent séjour à Melbourne. Et que j'ai bien envie de remettre une petite couche, tu vois. Donc, franchement, je vois la vie en rouge.
Ça fait plaisir à entendre. Hein. Comme quoi, peut-être que le malheur des uns, justement.
Fernando mettra un 5 sur 5.
Voilà ça. Le malheur des uns fait effectivement le bonheur des autres. 6 sur 5. Oh, oh. Et avec nous, un revenant, Niki Landa. Écoute, Niki, ça faisait vraiment longtemps que tu n'étais pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps qu'est-ce que tu as pu faire de mieux que participer à Barbecue F1 ?
Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, oui, comme on dit, il y avait bien longtemps. Mais pour répondre à ta question, j'étais occupé à accueillir un troisième pilote dans l'écurie familiale.
Eh ben, c'est beau ça. Bravo. Voilà,
qui occupait pas mal de nuits.
Ok.
Sur la fin de grossesse et le début de vie.
Tout va bien, ça va ?
Oui, tout va bien, tout va bien. Okay, bon, ça la fait... preuve, je peux être là avec vous, donc c'est que tout va bien.
Écoute, ça fait, ça bah, fait en tout cas, ça fait plaisir.
Que la...
ça fait plaisir.
Ouais. On espère que la naissance s'est mieux passée que la naissance de l'Alpine.
Oh.
Oui. Et elle s'appelle pas Alpine, donc tout va bien.
Ok, d'accord.
Félicitations en tout cas.
Ouais. Mm. Ah, bah, félicitations de la part de toute l'équipe de Radio Merguez & Co. Alors, on est tous les quatre autour du micro, autour du barbecue, mais avec nous, il y aura un petit peu de Takuma Sado qui nous a produit une pastille un petit peu chelou qu'on écoutera pendant l'émission. On a aussi Olivier Pastis qui nous a envoyé ses notes du Grand Prix, qui a demandé à ce qu'on le cite pendant l'émission, alors qu'il affronte, lui, de son côté, une vague de gastro-entérite. Coucou Olivier, et puis évidemment nous aurons les 5 infos de la semaine de Sébastien Vittel. Bon ben les gars, on va commencer une fois n'est pas coutume par parler de Ferrari, par ce doublé, on va pas dire historique parce que quand même on reste calme avec la Scuderia, mais quand même en tout cas un doublé qui change la donne un petit peu du côté de cette saison 2024, même à comparer avec la saison 2023. Et on a donc cette victoire de Carlos Sainz qui avait déjà remporté une victoire l'année dernière, c'était le seul hors Red Bull à avoir remporté une victoire, et puis là rebelote cette saison. Fernando, on sait que tu aimes bien la Scuderia, hein, tu viens de nous le dire. Que penser de ce week-end, sachant que voilà, je viens de dire que c'était Carlos qui l'avait emporté. On sait qu'il est en fin de contrat chez Ferrari sur cette saison. On a l'impression que malgré son opération, malgré cette fin à chez Ferrari, eh ben il est reboosté l'espagnol.
Ouais, tout à fait. Il a su trouver, épuiser les ressources nécessaires au bon moment, malgré son opération d'il y a 14 jours. Alors, ça reste l'appendicite. L'appendicite d'aujourd'hui n'est pas l'appendicite d'il y a quelques années. Mais malgré tout, c'est une opération chirurgicale. Et il a su, on va dire, remettre le pied à l'étrier d'une belle manière avec cette victoire. Là où tu le donnes, c'est, on va dire, la bonne performance quand même de Charles Leclerc qui finit deuxième du Grand Prix. Mais on va dire que comparé à son coéquipier, là où Ferrari misait, on va dire, pleinement sur son pilote phare qui était Charles, Carlos pilote de manière décomplexée et décompressée, sans pression, et les résultats sont là. Il lui met quand même aux qualifications cette fois-ci 3 dixièmes tout de même. Donc moi, j'estime que c'est quand même une petite tape dans le dos. Et que effectivement, là où on avait peut-être enterré un peu trop vite Carlos Sainz, il a peut-être encore des choses à montrer, et aussi des choses à montrer aux autres écuries, puisque son baquet encore pour l'année prochaine n'est pas décidé. Je rappelle qu'en 2025, il n'y a rien pour Carlos Sainz. Certains disent qu'il irait chez Mercedes, d'autres disent qu'il irait peut-être ailleurs. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, il donne la forme, et c'est pour le moment, je suis objectivement obligé de le dire, c'est le pilote numéro 1 en ce début de saison chez Ferrari.
Ok, non mais effectivement, toi Niki, on peut dire quand même justement, comme le dit Fernando, après les qualifications, on avait encore vu un Verstappen qui s'était imposé, alors que voilà, on ne le sentait pas ultra dans le coup, on va dire, on ne le sentait pas à donf. Et puis au final, il signe la pole position. Et puis, on avait quand même effectivement Carlos qui battait assez largement quand même son coéquipier, ne serait-ce que déjà même au niveau du positionnement. Après, il y a eu cette pénalité pour Pérez qui a fait que Charles est remonté d'un cran. Comment tu voyais les choses, toi, après les qualifications, avant la course, avant l'abandon assez très tôt dans la course? En fait, il n'a même pas pu rouler normalement, Max Verstappen. Mais comment tu voyais tout ça après les qualifications? On avait encore Red Bull qui semblait être en capacité d'écraser la course avec Max, mais au final ça ne s'est pas passé comme ça.
Exactement, ouais, je voyais, tu l'as bien dit, Verstappen écraser la concurrence dès le premier virage, hein, finalement. Après Sainz, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce pilote. Là, il a réalisé un super week-end, mais c'est un pilote qui, je trouve, a des hauts très hauts, qui est capable de sortir des week-ends vraiment parfaits, mais qui après stagne, enfin est capable de faire 5-6 courses d'affilée sans coup d'éclat et sans être très régulier. Donc là, on est sur un période fast. Mm-hmm. Sainz, ce qui est un peu rigolo ou quoi, c'est que là, il est dans une situation un peu délicate. Délicate, oui et non, parce que comme l'a dit Fernando, il pilote de manière, il pilote sans pression, parce qu'il sait qu'à la fin de l'année, il n'a plus de baquet, mais justement, il n'a plus de baquet l'année prochaine et il est obligé de faire bonne impression s'il veut avoir une écurie l'année prochaine. Et donc, c'est souvent quand il se retrouve un peu dans le, je dirais, en difficulté ou dans des situations pas faciles que il sort des performances XXL qui lui redonnent, qui font remonter un petit peu sa cote de crédit. Et là, du coup, c'est vraiment une superbe performance, hein, surtout que, mettre 3 dixièmes à Leclerc, qui est un peu le spécialiste des qualifs, qui est très très bon dans ce domaine-là. C'est quand même pas rien, quand même une grosse grosse perf.
Il y a Carlos qui devient calife à la place du calife.
C'est beau. On la valide celle-là.
Elle était spontanée. Lance, qu'est-ce que t'en penses toi de la situation de Charles? On avait dit quand même que avec cette situation où Carlos Sainz était un peu sans pression puisqu'il savait qu'il quittait Ferrari à la fin de la saison et que donc c'était en fait Charles le leader de l'équipe, ça pouvait être un peu compliqué pour lui. Là, on voit que les Ferrari, au final, elles sont assez performantes, même si au final, on n'a pas vraiment vu une lutte. On aurait aimé que ça dure, cette lutte entre Verstappen et Carlos Sainz sur les premiers tours du Grand Prix. On n'a pas vu, donc c'est un peu difficile de s'étalonner, parce que Sergio Pérez, il semble un peu largué dans toute cette lutte aux avant-postes. Comment tu vois tout ça, toi, se passer chez Ferrari? Et est-ce que, selon toi, ils ont rattrapé Red Bull? Est-ce qu'il y a une lutte qui est en train de s'installer? Après, j'ai l'impression qu'on change d'avis Grand Prix après Grand Prix, mais bon, c'est comme ça. La saison est longue, il faut quand même un peu créer du drama.
Bah, c'est vrai que cette histoire d'abandon de Max, et finalement, il y a des petits encarts statistiques qui ont fleuri un petit peu partout. Et c'est vrai que sur les 4 dernières saisons, on est sur le début de championnat le plus resserré, avec le moins de points. À titre de comparaison, 2021, après 3 courses, Lewis avait 69 points. En 2022, c'était Charles qui en avait 71. Max qui était à 69 points l'année dernière. Et là, cette année, il est juste à 51 points en ayant abandonné. Derrière, c'est très resserré avec Charles 47 et Chico 46. Donc finalement, t'as un nivellement, et bien sûr Carlos avec ses 40 points qui ferme la, qui est en P4,
qui a raté un Grand Prix quand même aussi.
Voilà, ça se rapproche, mais après, est-ce que il aurait ramené beaucoup de points ou plus ou moins à Jeddah? On ne peut pas savoir. Alors on est vraiment dans les what ifs. C'est vrai que sur ce début de saison, en tout cas, Carlos. Niki parlait justement de sa régularité irrégulière. Là, sur ce début de saison, c'est le plus régulier des deux. Mmh. Et c'est vrai que finalement, c'est Charles qui apparaît comme celui qui fait des fulgurances, notamment sur des qualifs, notamment à Jeddah ou même le premier circuit à Bahreïn en début de saison, qui a bien embêté Max. Mais Max, à chaque fois, qui trouve la fenêtre, qui fait le tour magique, qui colle 3 ou 4 dixièmes à tout le monde et qui fait très, très, très mal. Là, ça a encore été le cas où il pulvérise encore le record du tour pour la pole en descendant sous les 1-16. Mm-hmm. Mais Charles, finalement, réussit à faire le taf parce qu'il prend le meilleur tour. En prenant aussi le meilleur temps all-time de Melbourne.
Encore du circuit. Hein.
Ah, donc c'est vraiment quelque chose d'important aussi en fin de relais. Bon, en tout cas sur la course en elle-même, Carlos fait une course, une course à la Max, c'est-à-dire serein devant. Limite, on a presque envie de dire qu'il a conduit le coude à la portière à la Max, quoi. Ça a super bien géré, ça a toujours eu ce petit matelas d'avance sur Charles. Après, est-ce qu'il y avait une consigne d'équipe? Je pense pas non plus, parce que si Charles avait pu essayer d'aller attaquer Carlos pour essayer de faire quelque chose, il l'aurait fait. À noter encore sur Ferrari de super arrêts en pit stop qui permettent de faire un under sur Norris et de récupérer la place.
Tout à fait.
Donc voilà, c'est vraiment faire un undercut. Ouais, vraiment un super week-end de la part des rouges et notamment Carlos. Alors après, était-ce circonstanciel ou est-ce que on va dire que des Suzuka où je crois que Red Bull commence déjà à apporter des améliorations. Est-ce que voilà, donc même si la plupart attendront les deux circuits d'après, les deux GP d'après.
Okay.
À voir si ça peut continuer, mais en tout cas c'est vrai que ce qui était assez rigolo, c'est que on s'est toujours assez plaint finalement que Max, je crois que ça faisait 40 courses qu'il n'avait pas abandonné, donc finalement le maître de la régularité et finalement ça, ce qui fait que pour la gagne, tu restes sur ta faim parce que tu sais que c'est lui qui prend au bout. Là finalement on était presque déçus que ça se passe, parce qu'on aurait aimé voir cet affrontement en course Carlos-Max. Mm-hmm. Donc c'est on est ambivalent tout le temps, enfin c'est on n'est jamais content au final, on veut du suspense, et finalement quand il y en a, c'est ce que je disais en préambule, la course finalement est assez terne, il y a très peu de moments dont on se souviendra, à part l'abandon de Max.
Oui, puis les incidents de course, mais après...
Et les incidents de course, voilà. Et encore, Melbourne, 100% de GP à Melbourne, avec une safety car ou une virtual safety car, en tout cas.
Alors, il y a Charles Carrefour qui nous a rejoint. On va lui demander justement s'il est content ou s'il n'est pas content. Content, pas content, c'est ça la question pour Charles Carrefour. Et on parle de Ferrari. Content, pas content.
Salut à tous. Oui, content parce que effectivement, on va dire qu'on brise encore une fois cette monotonie des victoires de Verstappen. Pas content parce que je pense que on a tous perdu notre pari.
Donc il y a vraiment beaucoup de bifetons en jeu quand même dans les pronos, mais là on est mal.
Non, après le pas content, c'est de la manière. C'est un peu, on aurait préféré que ça soit que ça se fasse vraiment en piste au détriment d'un abandon lié à un problème mécanique. C'est le beau jeu, en tout cas c'est comme ça qu'on veut le voir. Et quand même, on se dit que c'est arrivé dès le troisième virage sur son problème au frein arrière. Mmh. Et il a tenu trois tours. Je me dis, le type a réussi à tenir quand même quelques tours. On ne se rend pas grand-chose, on ne se rend pas trop compte. Et il tient un rythme OK. Ça se trouve, si ça n'avait pas pris feu, il aurait pu potentiellement viser une top place. Quoi. Peut-être pas la victoire, parce que Carlos quand même semblait être vraiment dans l'échappement. Mais franchement, s'il n'avait pas, il n'y avait pas eu la radio au deuxième tour, je crois, ou au troisième tour, je pense qu'on ne se serait peut-être pas rendu compte qu'il était vraiment avec une conduite sur les œufs, quoi. Mm-hmm. Donc après, ouais, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir à voir. Mais de ce que j'ai pu entendre, Lance le disait bien, c'était assez monotone comme course. Mais bon, après, ça reste l'Australie, quoi, ça reste Melbourne. Rappelez-moi une course au Melbourne, on s'en souvient sur ces dernières années. J'en ai pas.
La saison dernière, ça avait été quand même assez. Il s'était passé des choses. Après, quand t'avais avec les Français en particulier, il y avait eu des incidents.
Ouais,
mais c'était lié à des incidents de course. Mais ils avaient fait une bonne.
Quoi, des incidents. Quoi.
Non, mais c'était intéressant.
Ça
avait été intéressant.
Un GP qui.
Ça avait été super intéressant parce qu'ils étaient proches de faire une bonne performance avec Pierre Gasly. Donc ça avait été très très frustrant l'année dernière. On va parler de Ferrari longuement puisque là c'est bon, c'est le doublé, c'est cool. Fernando, est-ce que c'est bon, ça y est, Vasseur, il a mis sa patte, les résultats arrivent, ça va continuer, c'est bon, c'est les Champs-Élysées, direction, alors peut-être pas le titre dès cette saison, mais on y est, c'est déjà dans la poche pour au moins 2025.
Vous voulez de la stat merguez?
Bien sûr.
Bon, alors je vais, parce que j'en ai plein à vous donner, j'ai plein de stats là. les stats, c'est depuis maintenant, je crois, une bonne dizaine d'années, à chaque fois qu'il y a eu un doublé à Melbourne, c'était championnat et constructeur et pilote, c'était les gagnants à l'arrivée.
D'accord.
Donc voilà, donc maintenant,
Donc c'est ça, c'est la caisse de champagne. La caisse de champagne, c'est ça, Fernando, qu'on met sur la
Une
table,
fois
là,
que
ou
je
pas, sur le barbecue,
une
pas
fois que
trop
je vous ai dit
proche?
ça, je vous dis juste que il y a 2 ans, quand on a gagné la manche d'ouverture, on disait que tous ceux qui ont gagné le Grand Prix de la manche d'ouverture étaient champions du monde à l'arrivée. Je vous rappelle qu'en 2022, on a gagné 1 et 2 Charles Leclerc, Carlos Sainz, et ben on a perdu.
Non mais il dit on, ben oui effectivement, Fernando
Mais t'as
Gaspacho,
pas
c'est
vu?
Ferrari,
Regarde, regarde. Je
Ferrari,
l'ai pas
c'est
encore.
Fernando Gaspacho. Pour ceux qui, parce que voilà, on fait style, on est impartiaux, on est des journalistes experts, on n'a pas,
Bien sûr,
mais
absolument.
Fernando lui il est un peu au-dessus de tout ça.
Autre stat, Red Bull, la dernière fois que Max Verstappen a abandonné, c'était en 2022 en Australie aussi. Voilà.
D'accord, il se
Et il
passe
était
des choses.
champion.
Voilà. Donc voilà, donc au final on peut dire ce qu'on veut avec les chiffres, ils sont fragiles, si on les torture, ils
C'est
disent
ça. Non,
ce qu'on a
après,
envie, quoi.
je vais répondre à ta question. Globalement, oui, il y a une patte basseur qui commence à se mettre en place. Globalement, l'ambiance, elle est meilleure. Les coms sont meilleurs. Les stratégies sont meilleures. Les pit stops sont meilleurs. Il y a une bonne dynamique. Maintenant, c'est clair, on va se le dire. C'est pas cette année qu'on va gagner le championnat. L'idée, c'est qu'il y a une transformation de l'équipe. C'est sur du long terme que ça se mise. Il y a des arrivées d'ingénieurs aussi qui vont avoir lieu d'autres écuries, notamment de Mercedes. Et là, Ferrari est en train de glaner, notamment du côté de Red Bull, pour récupérer un certain Pierre Vacher.
T'es
Donc,
sûr que c'est une bonne nouvelle d'accueillir des ingénieurs de chez Mercedes en ce moment?
Il faut pas oublier qu'il y a quand même 7 ans. Après, ça dépend des domaines. Enfin, faut se le dire.
Si c'est les ingénieurs motoristes, oui.
Ça dépend des domaines. C'est pour ça qu'il faut les sélectionner. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a encore quelques années, quand c'était Mattia Binotto, il y avait encore une espèce de notion de promotion interne où il fallait que ça soit des Italiens pour des ingénieurs italiens, etc. Et que c'était
Oui.
compliqué de faire venir des ingénieurs, notamment de Grande-Bretagne, puisqu'on sait tous qu'aujourd'hui, on va dire que 80% du marché d'ingénieurs est aujourd'hui en Grande-Bretagne, parce que quasiment toutes les écuries sont là-bas, entre Aston Martin, Mercedes, McLaren, et j'en passe et des meilleurs, même les ingénieurs de chez Alpine. Ça, j'en fais pas trop la
Je vais
pub.
pas aller les prendre, non,
Faut pas aller
faut
les
pas les
prendre.
recruter.
Voilà, mais c'est juste pour dire que le marché, il est essentiellement en Grande-Bretagne. Et donc, l'idée de dire Maranello essaye d'attirer ces talents-là en Italie, moi je dis qu'aujourd'hui c'est bien que ça se fasse, que ça se réouvre, et c'est une nouvelle porte pour Ferrari. C'est le début de quelque chose. Maintenant, voilà, je
D'accord.
rappelle qu'il y a encore un certain nombre de courses à voir cette année, et comme dirait Lewis Hamilton, c'est un marathon.
Ah, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ok, bah, je vais passer le micro à Niki Lambda pour parler de Red Bull. Parce que justement, bah, là, on a vu que Verstappen n'a pas fait la course. Au final, il s'est arrêté, il a abandonné très tôt avec son problème de frein. On a un Sergio Perez
Tout à fait.
qui était là, mais qui n'était pas dans les premières places en qualification et qui, au final, a été plutôt inoffensif sur cette course. Au final, au classement, Red Bull est talonné par Ferrari actuellement. Au classement pilote, Sergio, il n'est pas en deuxième place. C'est un peu rebelote sur les saisons précédentes. Qu'est-ce qu'il faut penser de Red Bull? Ils ont quand même, semble-t-il, un peu calmé le feu des problèmes, on va dire, extra-sportifs qui les animaient, puisqu'on n'en a pas trop entendu parler ce week-end. On ne sait pas trop où ça en est. Moi, j'ai l'impression qu'au final, ils sont en train d'enterrer ils ont mis dans le bloc béton le problème, là, pour l'instant.
Bah, avec $1 million, tu peux l'enterrer bien profond.
Écoute, moi je connais pas tous les détails de l'affaire, on en a déjà parlé la dernière fois. Si ça se termine comme ça, ça sera terminé. Après, ramènera une sérénité sur le paddock et chez Red Bull. Mais après, est-ce que dans le fond,
Mais
ça sera bien?
en fait, c'est vraiment entre les deux, t'as vraiment maintenant une dichotomie dans l'équipe. Et bah justement, Fernando parlait des ingénieurs à venir chercher. Je pense que c'est tellement le dawa chez Red Bull que tu peux venir faire tes courses.
Ok.
Parce que je pense qu'en interne, ça doit être assez compliqué. Tu as quand même Adrian Newey qui pourrait être vers la sortie pour aller faire de l'hypercar avec de l'endurance. Enfin bref, et si lui s'en va, ça peut être la porte ouverte pour, okay. pour tous les autres. Donc, tu as vraiment le côté Helmut Marko qui est soutenu par la branche autrichienne de Red Bull, actionnaire minoritaire à 49%, et Horner qui est soutenu par la branche thaïlandaise. Et qui sont majoritaires. Et en fait, l'Autriche et la Thaïlande ne peuvent pas se piffrer. Et donc, en fait, tu as une espèce de guerre ouverte à l'intérieur. Ils vont faire leur guerre et on verra les résultats finalement avec les départs des uns et des autres. Mais avec en plus, il paraît qu'il y a des ingénieurs qui finalement sont liés au contrat d'Horner et que si lui s'en va, il y a plein de gens qui partent avec lui. Donc...
D'accord.
On n'a pas fini de voir ça et ça pourrait être le point d'orgue avec Max qui se barre de Red Bull pour aller chez Merco.
Ok.
Et Alonso qui débarque chez Red Bull. Enfin bref, c'est la silly season, ça va être très très sympa.
Alors je voulais poser la justement, j'étais en train d'introduire tout ça envers Niki. Mais donc, que penser de Red Bull? Est-ce que là, Fernando, là, ils ont doublé, lui, il dit on reste calme cette année, on essaie juste d'éviter la relégation. Niki Lambda, que penses-tu de la situation de Red Bull? Parce que on semble-t-il la voiture est très compétitive, mais en tout cas il y a que un des pilotes qui arrive à la faire marcher. On a l'impression que c'est un peu Aston Martin avec Alonso et Stroll. Et là Sergio Perez ça décolle pas. On sait que c'est pas le roi de la qualif lui, mais voilà. Alors que penser? C'est toi. Ouais, que... Perez, est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont encore gagner cette année ou bon.
Après, c'est difficile à dire. La voiture est tellement bonne déjà là en début de saison. Mmh. S'ils apportent déjà des améliorations dès le Grand Prix prochain à Suzuka, oui, c'est à Suzuka, je crois.
Tout à fait.
Le prochain. Ouais. C'est un petit peu difficile à dire de se projeter. J'aimerais bien que Perez stagne vers la 4-5e place et que du coup ça se bataille toute l'année avec Ferrari pour le championnat constructeur. J'aimerais bien. Maintenant, voilà, même sans grand talent ou sans grand coup d'éclat de Perez, même s'il est dans le dur, il est capable de finir entre 2 et 4 toute l'année, quoi. Donc c'est difficile à dire. Maintenant, comme on l'a dit, les problèmes extra-sportifs et la situation en interne, ça peut aussi jouer en faveur des autres écuries et bah justement certaines améliorations qui arrivent pas aussi bien que prévu, quelques tensions, etc. Et ça peut mettre un peu de quelques grains de sable dans cette dans l'engrenage là où justement ce qui faisait, je trouve, aussi la force de Red Bull ces dernières années. C'est la solidité, mmh. Dans le sens où tu as l'impression qu'il pouvait vraiment rien leur arriver. La voiture est fiable, les pilotes sont fiables, il n'y a jamais une couille qui se passe au pit stop. Enfin voilà, c'est vraiment le...
Oui.
Tu avais cette sensation, cette impression de sérénité, et là,
ouais, mais
tu as des problèmes internes, ça peut potentiellement gâcher la saison. Donc. Si ça peut apporter de la un peu de piment, je dirais uniquement pour le championnat constructeur, hein, je parle. Pourquoi pas, ça peut être bien. Et puis après Perez, ouais, ça fait quelques années que c'est un petit peu compliqué, quoi. Ou pour celui, c'est un vrai, vrai, vrai numéro 2. À aucun moment tu le sens en mesure de, ne serait-ce que d'aller chatouiller Verstappen. Et là, il prend une minute, je crois, sur Sainz à la fin.
Ouais, mais il y a la virtuelle safety car qui.
Au niveau des temps, c'est un
il
peu.
Il fausse tous les écarts à la fin.
Après, il finit cinquième de la course.
Cinquième.
Alors que.
Tu l'as jamais senti en exactement. Mesure d'aller chercher les McLaren.
Il n'y avait rien qui fait.
Seul au monde.
Tout à fait. Il pouvait faire sa course et s'appuyer sur sa voiture et. Enfin, moi en tout cas j'ai écouté le podcast de Formule 1, Formula One, je pense. Et justement, il était interviewé sur avant le début de la saison. Et en tout cas, ça a l'air d'être un gars assez sympa. Moi, j'ai trouvé. Je sais pas si l'un d'entre vous écoute ces podcasts qui sont faits par. Attendez, je vais vous dire ça. Je sais pas si ça vous parle. Burton, non ?
Comment ? J'ai déjà du mal à comprendre ceux qui sont faits en français. Donc.
Ok. Non, non, mais en tout cas, bon, pour
de
ceux
là,
qui...
écouter ceux en anglais.
Écoute, mais je vais poser la question à Charles quand même. Au-delà de tout ça et des contrats, différents événements chez Red Bull, ils avaient quand même changé complètement le concept de leur voiture. Ils avaient pris ce risque-là, donc il y a quand même une certaine sérénité, une assurance en interne pour tenter ces. Alors c'est pas des paris technologiques, mais c'est quand même. Ils auraient pu se reposer sur leurs acquis. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait sur cette, pour cette saison. Et puis bon. Là, c'est un Grand Prix, c'est peut-être juste un soubresaut. Qu'en penses-tu, Charles ? Puisqu'ils ont l'air d'avoir enterré leurs problèmes.
En soi, l'équipe, je pense, elle veut juste gagner. Donc après, je parle des 60 personnes qui sont sur le paddock, et même dans l'écurie, les 1000 et quelques personnes qui a chez Red Bull, je pense que. Certes, il y a des soucis, mais je pense que ils ont tous un taf et ils ont tous, je pense, envie aussi de faire en sorte que ce qu'ils ont mis en place pendant 2023 fonctionne pour 2024 en termes de performance. Donc, je pense qu'ils se relâcheront pas et font en sorte que la voiture fonctionne. Le pari a l'air d'être plutôt gagnant quand on voit les deux premières courses où clairement, même eux se disaient pas autant. Ils étaient même surpris de se dire, on est aussi autant au-dessus du lot. Ce qui est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire que niveau moteur, ce genre de choses, ils n'ont pas forcément toujours à pousser, surtout que maintenant il y a un quatrième moteur gratos. Donc ça veut dire qu'ils pourront, ça se trouve, prendre aucune pénalité derrière concernant le moteur, à moins qu'il y ait des accrochages. Mais la fiabilité qu'il y a eu, c'est pas du tout ce qu'ils ont eu, c'était pas du tout du moteur. Je trouve que c'était pas grand chose et on l'a bien vu, ils ont fait 40 grands prix avant d'avoir une nouvelle panne. C'est, je pense, rarement arrivé dans l'histoire de la F1 de faire autant de grands prix avant d'avoir une panne pas que mécanique, quoi. Donc, pour moi, le pari, pour moi, est gagnant et je les vois pas trop avoir d'autres soucis mécaniques. Dans le sens où, vu qu'il y a pas grand chose qui a évolué au niveau moteur, je vois pas ce qui pourrait les gêner à ce niveau-là.
Ok, très bien. Je vais passer la parole à Fernando ou Lens, et puis je vais leur dire peut-être de parler de Mercedes, à moins qu'ils aient envie d'ajouter quelque chose sur Red Bull. En tout cas, week-end catastrophe chez Mercedes. On peut penser quand même que Hamilton, il a un peu eu le nez creux quand même de décider de partir à l'issue de cette saison, parce que ils ont pas trop redressé la barre, et puis au final, ça fait pas mal de saisons qu'ils sont dans le dur. Fernando, que penses-tu de ce que je viens de dire?
Je suis totalement d'accord. C'est un début de saison un peu catastrophique. On va se le dire globalement, où Lewis Hamilton est déjà peut-être projeté dans le futur avant de s'occuper de la saison 2024. C'est un peu la sensation que moi personnellement ça me donne, que globalement ils n'arrivent pas à trouver la performance avec la Mercedes aujourd'hui. C'est la quatrième force pour moi du plateau, globalement. Alors, je le voyais déjà depuis le début de la saison. D'autres étaient un peu plus optimistes, où ils les voyaient juste talonner derrière les Ferrari. Ce week-end a montré quand même une hiérarchie assez constante qui se dessine, avec Mercedes donc quatrième, derrière les McLaren. Oui. Et je pense qu'on parlera des McLaren après derrière. Mais ce qui montre aussi un autre aspect, c'est que George Russell est maintenant constamment devant Lewis Hamilton. Mmh. Donc ça, c'est en termes de performance brute. Je vais pas parler de l'incident de course, on en parlera, je pense, assez longuement tout à l'heure, de la fin de course. Maintenant, en tant que tel, on va dire que pour une écurie qui a été quand même 8 fois championne du monde, ne pas réussir à trouver les solutions, à remonter la pente, à développer un concept qui ne fonctionne pas, mais qui au final est repris par d'autres et qui fonctionne, Je pense qu'il y a vraiment besoin d'un renouveau chez Mercedes et qu'il va y avoir un vent nouveau à l'horizon, on va dire, de 2026. Peut-être pas 2025, mais déjà 2026 avec la nouvelle réglementation. Mais l'année va être particulièrement longue chez Mercedes.
Ok, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément cité en détail, que ce soit le classement de la course ou même des qualifs, mais on avait Hamilton qui n'était pas en Q3, qui est sorti en Q2, et puis on avait effectivement largement, au final, assez devant les Mercedes, on avait les McLaren, puisque au final, Norris monte sur le podium en troisième position, et Piastri finit quatrième, cinquième Pérez, sixième, au final, il n'y a pas de Mercedes qui a fini, puisque Hamilton a abandonné. Très tôt dans le Grand Prix, et il y a eu un accident tout en fin de Grand
dans
Prix
l'avant-dernier
du côté de George Russell. Lance, ton avis sur Mercedes, est-ce que tu rejoins ce que vient de dire Fernando? Au final, s'ils veulent bien préparer 2026, ça veut dire que les changements, il va falloir pas tarder à les faire. Il va pas falloir tarder à les faire plutôt.
Complètement, oui. C'est tu voire limite, tu as l'impression que ça va presque plus loin. C'est que Hamilton, on a limite l'impression qu'il n'est plus associé au développement de la voiture. Donc c'est le mec, il va parler, mais limite tu vas pas l'écouter. Donc ouais, pour un septuple champion du monde, c'est quand même compliqué. Même lui, je pense qu'il a hâte que la saison se termine. Là, je crois qu'il disait que c'était l'un de ses pires week-ends qu'il est passé, et je veux bien l'entendre. La Mercedes qui abandonne sur un souci moteur, alors que c'est la force de l'écurie. Donc la voiture fonctionne pas en aéro. Et si même le moteur commence à leur faire défaut, ça va être vraiment très compliqué. Mais c'est vrai que quand tu vois l'évolution par rapport au temps, par rapport à la saison dernière, parmi les top teams, bah c'est vrai que ils sont comme non, ça évolue très peu. Bien, Russell gagne 2 dixièmes et demi et Hamilton gagne 1 dixième et demi.
Oui.
Dans le même temps, Ferrari, aussi bien Charles que Carlos, il gagne 1 seconde. Côté Red Bull, Max gagne 8 dixièmes. Pérez, ils n'ont pas mis de trucs. Mais les meilleurs, et on en parlera après, c'est McLaren qui gagne quasiment 2 secondes par rapport à l'année dernière.
Non, mais on a bien fait d'investir dans la data room à l'intersaison du côté de Radio Merguez, parce qu'on a des bonnes stats là du côté des experts à barbecue.
Donc c'est vraiment impressionnant. Georges réussit à faire le minimum syndical. Bon, là, il y a cet accrochage, mais sinon il est encore dans les points. Donc finalement, il maintient l'écurie à flot et qui maintient l'illusion qui peuvent être pas très très loin des 3 premières places qui sont complètement verrouillées par Red Bull, Ferrari et McLaren. On disait P4, mais pour moi, ils sont peut-être même P5 avec Aston qui peut être plus performant qu'eux, avec un Fernando qui est toujours Fernando, quoi. Donc je vais pas dire que aujourd'hui Lewis c'est le Stroll de Mercedes. Parce que ça serait quand même un manque de respect
Ah, c'est bon.
absolument total.
Ça, c'est vache.
Et voilà, ça serait, c'est une insulte, hein, je pense. Si tu appelles quelqu'un un Stroll, c'est comme un Latifi. Mais Latifi, c'est vraiment le degré ultime. Mais non, mais c'est là, sur les qualifs, Georges mène 3-0 depuis le début de saison.
Oui.
Voilà, ça veut aussi tout dire. Donc,
Alors, est-ce que, Niki, est-ce que tu partages ce jugement un peu
un peu
merguez,
sévère.
peut-être, de la part de Lens sur la concurrence Russell-Hamilton? Après, moi, je vois quand même que oui, on a un Russell qui domine son coéquipier. Pour autant, les performances intrinsèques suivent la même tendance. C'est-à-dire que quand on voit Russell en qualification sur ce Grand Prix d'Australie, Ok, il est devant son coéquipier, mais Mercedes, elle est à la place, elle est à sa place, quoi, à la place qu'on est en train de dire, c'est-à-dire, pas troisième, quatrième, et puis en fait, quand il a eu son accident, il luttait derrière une Aston, il luttait derrière Alonso.
Oui, complètement. Complètement. Bah de toute façon, il y a une forme de logique aussi, hein, dans le sens où le fait que Hamilton se barre à la fin de la saison, on le sortait déjà un petit peu l'année dernière avec, enfin, voilà, le recrutement de Russell, c'était aussi pour dire, bah, on va, ce sera notre pilote numéro un pour après l'après Hamilton. Finalement, l'après Hamilton, bah, ce sera dès le mois de novembre, décembre là. Ça me paraît une suite logique que ce soit Russell qui prenne le lead chez Mercedes par rapport à Hamilton. Maintenant, voilà, c'est vrai que la voiture, elle est quand même pas incroyable. Elle est maintenant bien derrière les McLaren. Et comme l'a souligné en plus Fernando, c'est quand même un sacré camouflé pour Mercedes, je trouve, de s'être entêté avec leur voiture sans ponton pendant plusieurs mois, ou pour finalement dire bon bah en fait on s'est planté sur toute la ligne, ça marche pas, et six mois après Red Bull sort une voiture sans ponton et c'est la meilleure de toutes. Donc j'avoue que ça doit, enfin là ils ont dû prendre un petit coup derrière la tête quand même. Pour l'ego.
Ouais, non, on peut imaginer que Red Bull, ils se sont dit, on va gagner sur deux tableaux. On va avoir une voiture très compétitive et en même temps, on va défoncer Mercedes en réussissant ce qu'ils ont raté.
Ils sont déjà en train de se noyer, mais nous, on appuie sur la tête avec le pied. C'était un peu ça.
On leur met un aileron avec un aéro pas terrible. Ok. Ouais. Très bien.
Donc voilà mon analyse.
Ok. Je vois que Fernando lève le doigt.
Rappelez-vous, en début de saison, on disait vous avez vu l'aileron avant de Mercedes, ils vont tout péter. Ben là, ils ont tout pété.
Ils ont tout pété, les deux voitures.
Double abandon.
On sait aussi qu'avec cet aéro sur ces voitures, l'aileron avant participe à combien? 15% de la performance aéro.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on en faisait une montagne en disant, vous rendez compte, c'est illégal, ils ont un aileron, c'est complètement pété, ça va pas. Et finalement, on s'aperçoit qu'après trois courses, la hiérarchie est plus ou moins respectée par rapport à ce qu'on s'était dit, nous, au premier Grand Prix, à l'issue du premier débat merguez, entre guillemets. Et là, c'est confirmé en Australie où ils sont, oui, même voire cinquième. Après, je les enterre pas non plus parce que ça reste Mercedes. Mais franchement, enfin, je veux dire, on en a fait des caisses et des caisses. Aujourd'hui, la perfo, finalement, elle est pas là. La voiture, ils ont du mal à la développer et à la, comment, de trouver les bons réglages pour en tirer profit durant les week-ends de course. Et on a deux pilotes aujourd'hui, on en a un qui se défonce pour l'écurie, qui est George Russell, et c'est ma sensation que ça me donne, avec un Lewis Hamilton qui, lui, en a clairement plus rien à faire.
Okay. À part se plaindre.
Oh, oui. C'est oui. Encore, on va pas recommencer avec le Hamilton bashing de Lance Newell. C'est bon. On a fait deux saisons
dessus.
J'ai
une lumière sur le corps.
Bon, alors on va passer à McLaren quand même, qui, on va dire, c'est pas de nous surprendre bien, mais en tout cas le contraste encore une fois était très très important par rapport à la saison dernière. Je vais passer le micro à Charles Carrefour qui a mis sa lumière rouge, elle tend un petit peu vers l'orange maintenant, il est un peu entre les deux, il joue deux tableaux, Ferrari, McLaren, c'est comme ça au moins, il a deux fois plus de chances de se faire plaisir. Que penser de McLaren qui au final ils font pas tant de bruit que ça, mais ils sont vraiment au rendez-vous, et puis avec on a vu Norris qui était performant, on sait qu'il y a une concurrence cette saison qui au final on va un peu moins lui pardonner de se faire talonner par son coéquipier voire devancer. Comment tu vois les McLaren, Charles?
Clairement, pour moi le duo fonctionne plutôt bien, la voiture fonctionne plutôt bien. Si ça continue comme ça, peuvent potentiellement accrocher des podiums très régulièrement. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Zak Brown a été prolongé jusqu'en 2030, il semble. Ce qui est bon signe, dans le sens où le travail qu'il a fourni depuis 2019, il me semble, 2018-2019, Je crois qu'Éric Boullier a été viré en 2018, où il doit reprendre dans ces eaux-là, il me semble. Donc, pour le coup, il a fait un bon taf. Et ça fait plaisir à voir quand on sait par où ils sont passés. Au final, ils ont bien fait de recruter Piastri. Un an plus tard, il est P3 et il finit par swapper avec son collègue. Donc non, franchement, plutôt bon signe. Le duo plutôt fonctionne bien. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir mésentente, pas d'extra sportif. Donc au final, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est un peu ça, mais bon, ils font le taf, ils sont là. Je dirais limite troisième force du plateau derrière Ferrari. Donc en vrai, la voiture est bien née. Maintenant, il faut juste que le développement soit bon. Et là-dessus, ils ont montré que la dernière, ils savaient faire. Donc franchement, plutôt encourageant, même voire très positif pour les saisons, les Grands Prix qui arrivent.
Ok. Niki, je te demande aussi ce que penser de McLaren. On sait qu'ils ont été, ils sont partis de rien l'année dernière quasiment. Ils ont réussi à remonter la
Oui.
pente. Mais on a vu quand même une petite erreur de Piastri sur la course qui a pas apporté grand préjudice, mais qui lui a quand même fait perdre pas mal de temps, en tout cas par rapport à son coéquipier. Toi, tu en penses quoi de McLaren? Toi, tu voilà, on sait que
Bah c'est
t'aimes
vrai
pas
qu'ils
trop
reviennent
Lando
de
Norris, mais
loin.
bon, c'est.
Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas trop d'atomes crochus avec Lando. D'ailleurs, du coup, j'étais un peu déçu qu'il redonne pas la place. Enfin, après, il y avait quand même pas mal d'écart. Et puis bon, ça reste Norris, le pilote numéro un. Mais j'avoue que, du coup, de voir Piastri laisser la troisième place à Norris, enfin, s'écarter pour le laisser passer. Pour au final que ça en reste là, que Norris aille pas chercher la bagarre pour la deuxième place ou quoi. Bon, je me disais pour offrir un petit podium à Piastri chez lui, ça aurait pu être sympa. Mais non, mais sinon après,
Ça, c'est parce que t'avais fait le prono, c'est pour ça. T'as fait le prono de Piastri troisième, c'est pour ça que
ouais,
tu m'as
aussi
dit ça.
par exemple, c'était
La caisse de
une excellente
champagne.
raison. C'était une excellente raison.
Ok.
Mais sinon non, enfin voilà, je rejoins complètement ce qu'a dit Charles. Et comme tu l'as bien dit, Jacques aussi, c'est qu'ils reviennent de très très loin. L'année dernière, il y avait les petites blagues Orange is the new ass, je rappelle quand même. C'est pour dire un peu de là où ils viennent. Et là, maintenant, de les voir, bah ouais, sur le podium, troisième place, enfin ouais, troisième force du plateau. On n'est pas à l'abri qu'ils aillent chercher un podium, voire une victoire avec des circonstances favorables.
Ok, très bien.
Donc très bien, très bien.
Ok, Lance, des choses à ajouter sur McLaren? Après, sinon, on va passer à Aston. Enfin, Aston.
D'ailleurs,
Alonso plutôt.
cette blague Orange is the New Ass, d'ailleurs, elle tombe à l'eau pour les deux écuries. Hein. On en parlera un petit
Oui.
peu après. Parce que, avec Takuma, on avait aussi bien assaisonné les As à la première émission. Ils nous font fermer notre bouche, hein, un petit peu quand même. Non, bah après, c'est, j'ai dit tout à l'heure. Enfin, c'était des tracteurs orange en début de saison dernière. Là, quand même, d'une saison à l'autre, en un an de temps, les mecs ont gagné quasiment 2 secondes. 2 secondes en Formule 1, quoi, sur un circuit où t'en fais le tour en 1,16. En rapport, c'est monstrueux, quoi. Donc, ils
Bon,
continuent
après, ils
sur.
avaient vraiment sorti un char à voile l'année dernière. Donc,
Ah, c'est ça, c'est
ouais,
sur.
début de saison, ouais. C'est compliqué.
C'était vraiment affreux.
Après, c'est vrai que là-dessus, ils savaient qu'ils sortaient un char à voile, mais ils savaient qu'ils avaient un package aéro qui arrivait. Alors peut-être un peu tard dans la saison au résultat de 2023, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui arrivait qui pouvait potentiellement
Bah
faire.
d'ailleurs, ils ont tout pété dès qu'ils ont
Bah, à
sorti
partir
leur
de
package
Lotus.
aéro. Ouais, c'était ça. Dès qu'ils ont
Dès que
sorti,
Norris
ils ont niqué tout le
sera.
monde.
Mais du coup, certaines écuries où la voiture est mal née cette année et y a rien qui est prévu pour. Il n'y a pas de package aéro qui est prévu dans ces grands prix, quoi. Donc,
Bah, après, on a vu la saison dernière qu'il y a eu des retournements. C'est-à-dire à la fois la McLaren d'un tracteur qui est devenu une fusée, et l'Aston Martin d'une fusée qui est devenue un tracteur, quoi. Donc y a vraiment des retournements. Alors après, il y a des écuries où on aimerait qu'il y ait des retournements, coucou Alpine, mais où là, pour le coup, je pense qu'entre nous, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aucun espoir. Hein. On va être assez lucide. Mais sur McLaren, ouais, ça travaille vraiment très bien. T'as une bonne mentalité. On n'a pas entendu un Piastri pleurer à sa radio. Il m'a pas rendu ma place. Je pense que ça, il y a des stratégies qui sont élaborées en avant-course. Si t'as un swap de place, Norris reste le numéro un. Je pense qu'il était encore premier au classement des pilotes. Bah, tu donnes l'avantage à celui qui est devant. Surtout quand t'as Max qui perd des points, quand t'as des gros points à aller chercher. Si tu raisonnes en tant qu'écurie, 3-4, toi tu t'en fous, et donc finalement tu laisses la priorité à ton pilote numéro 1. Piastri, c'est un sophomore, c'est sa deuxième année, voilà, tu continues à apprendre. Norris, ça fait quand même quelques saisons qu'il est là. Moi, c'est pas le truc dans le week-end qui m'a le plus chiffonné, tu vois. Si on parle de stratégie d'équipe. Okay.
Alors on va tout de suite passer, j'arrive à faire une phrase qui va bien. On va partir justement sur quelque chose qui a peut-être un peu chiffonné. Je vous laisse écouter la pastille de Takuma Sado.
Salut à toutes et à tous, ici Takuma Sado et aujourd'hui, on va parler de la théorie du complot de la semaine. Vous le savez, tout est prétexte à tout en Formule 1 et le moindre grain de sable peut se transformer en tempête. Ici, on va parler du crash de George Russell. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis que tout était planifié par Fernando Alonso ? En 2025, une place est libre chez Mercedes et les concurrents sont légion. Parmi les favoris, un certain Fernando Alonso. Sachant cela, il devient plus clair de pourquoi l'Espagnol a ainsi fait son freinage pour envoyer Russell au tapis. Alonso souhaite instaurer un climat de domination dans la tête de l'Anglais en vue de la saison prochaine. Il n'oublie pas à quel point son année 2007 chez McLaren fut ardue, et depuis, il veut s'assurer qu'il est le seul maître à bord. Voilà pourquoi il a provoqué l'accident de George Russell. Il veut que son jeune coéquipier soit moins en confiance avec lui, et le travail commence dès aujourd'hui. Il est de notoriété publique qu'Alonso est le roi des manœuvres fourbes, on en a la preuve ici d'autant plus. Je vous laisse réfléchir à tout ceci, et moi, je vous retrouve après le Grand Prix du Japon. Je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez jamais que rien n'est jamais le fruit du hasard.
Alors, on ne connaît pas forcément les activités de Takuma en dehors de Barbecue F1. Est-il un complotiste avec une chaîne YouTube à 12 milliards de followers? On ne l'espère pas, quand même.
C'est très bien raconté.
On ne l'espère pas, c'est très bien raconté.
Hashtag nous sachons.
Ouais, hashtag nous sachons, donc voilà, tout est calculé, tout est complot. Alors on va récapituler quand même ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement on a eu cet accident. Alors il y a plusieurs débats, il y a Alonso qui s'est retrouvé avec une pénalité parce qu'en fait sur ce qui a généré l'accident, c'est quand même qu'il a freiné plus fort que sur les tours précédents. Ça a visiblement déstabilisé Russell qui au final a eu un accident. La voiture de Russell s'est retrouvée en milieu de piste à moitié retournée ou en travers. Il n'y a pas eu de drapeau rouge. Donc voilà, il y a plusieurs sujets. En tout cas, on va demander à Lens ce qu'il en a pensé. Je le vois fourmiller de merguez sur justement cette problématique, à la fois la pénalité d'Alonso, la gestion de la course par rapport à ça, puisque derrière, il y avait quand même les voitures qui roulaient, c'était le dernier tour. Donc ça pouvait être extrêmement dangereux. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Et puis au-delà de ça, d'Alonso, de la performance d'Aston qui effectivement talonne peut-être ou justement dominait Mercedes à ce moment-là.
En fait, je pense que comme beaucoup, pas mal évolué sur le sujet à chaud. Puis après, quand tu réfléchis, que tu vois passer les choses, que tu écoutes les commentaires de certains, il y a sur Twitter, il y a un néo-commissaire de course qui racontait finalement lui, son ressenti et le pourquoi du comment, il n'y avait pas eu de drapeau rouge et plutôt une VSC, qui était assez intéressant. Sur l'aspect en lui-même de l'accident, j'ai pu aussi entendre les gens qui défendaient et qui ne comprenaient pas pourquoi Fernando s'était pris une pénalité de 20 secondes. D'autres qui disaient que c'était totalement justifié. Alors, son comportement erratique, je crois qu'il passe à cet endroit-là, au niveau du virage, 37 km/h en moins par rapport au tour d'avant. C'est ce qui fait justifier les commissaires sur le fait que c'est un comportement erratique. Et donc, finalement, il fait exprès de surprendre, enfin, pour eux, entre guillemets, il fait exprès de surprendre Georges pour qu'il soit perturbé et finalement puisse reprendre un peu plus l'avantage dans la ligne droite suivante, sachant qu'en plus Russell avait le DRS. Donc finalement, les gens qui défendent aussi Fernando disent que si jamais tu le pénalises pour ça, bah tu pénalises finalement le fait de l'art de la course, quoi, l'art du pilotage, qui est aussi bien fait de manœuvres magnifiques que de dépassements de toute beauté, comme dirait l'autre, et aussi de coups de fourberie, quoi. Et comme le dit très bien Takuma, Fernando, c'est quand même pas le dernier pour faire des petits tours de manivelle dans les courses. Donc, il y a vraiment plein d'aspects là-dessus. Tu peux donner la pénalité, tu peux ne pas la donner. D'ailleurs, quand tu entends les déclarations de Russell, pour lui, s'il n'y avait pas eu pénalité de Fernando, il n'en aurait pas fait. Tout un fromage.
Russell est un gentleman. C'est un peu le gentleman de la F1.
C'est ce qu'il dit. Là-dessus, il a été surpris. Et voilà, il a freiné. Après, il y a plusieurs aspects sur ce virage. Il va peut-être falloir commencer un jour à se poser la question de le modifier. Parce qu'il y a quand même eu trois accidents dessus sur le même week-end. C'est quand même assez souvent. On en reviendra sur l'autre petite polémique avec les Williams et le switch de pilote. Albon, il s'est quand même pris sur ce virage-là. En F2, on a aussi eu un accident sur celui-là. Et le gros problème, après, il y a des virages qui provoquent des accidents, mais le gros problème, c'est qu'à chaque fois, si tu tapes à cet endroit-là, ta voiture revient sur la piste. Ce qui peut engendrer des sur-accidents qui sont généralement plus dangereux que les accidents eux-mêmes, même sur la route de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est un peu un gros souci. Et justement, à cause de ça, de la voiture qui revient, s'est posée la polémique de fallait-il mettre un drapeau rouge. Là aussi, quand on a vu la course, on a dit t'es à vociférer devant ton écran à traiter la FIA d'incompétent, comme d'habitude. C'est le premier réflexe hein, qu'on a, de traiter la FIA d'incompétent. Et c'est souvent le cas quand même. Mais le truc, c'est que là, tu dis finalement, la VSC, oui, c'était la meilleure chose. C'était le dernier tour, donc si tu mettais un drapeau rouge, qu'il y avait tout ce business du tu prends le classement du tour d'avant, sachant qu'il y avait des mecs qui étaient dans le tour 58, d'autres dans le tour 57, enfin bref, c'était un merdier total. La FIA aurait peut-être réussi à nous prendre quelque chose en nous donnant le résultat de la course trois jours après. La safety car, c'était pas possible, vu que si tu continuais, elle rentrait au 59e tour, le Grand Prix était déjà terminé. Donc finalement, t'avais que la VSC. Après, c'est le temps d'annonce de la VSC et d'agitation des petits drapeaux jaunes pour prévenir. Parce que Stroll était 12 secondes derrière. Ils ont mis du temps. Ils pouvaient arriver. Si t'avais un problème de radio ou ce genre de choses, t'avais Stroll qui pouvait se prendre Russell et totalement pulvériser la Mercedes. Donc, t'es peut-être pas passé loin d'un drame. Mais ça, c'est entre guillemets à préparer en amont, surtout sur un virage qui est réputé accidentogène, quoi.
Ok.
Mais bon, est-ce que c'est comme chez nous où pour qu'un virage, un carrefour soit aménagé, il faut un mort?
Ou maintenant il y a du dénigrement de la France, Lens quand même. Attention. Je vais demander à Charles.
Je mets les pieds dans le plat, monsieur. Voilà, j'ai peur de personne.
La France, c'est la chute. Charles, est-ce que tu partages cette analyse ou pas? Est-ce que c'est ta vision de la sécurité sur les Grands Prix? Est-ce que Alonso, pour continuer dans la verve Takuma place ses pions pour 2025 auprès de son possible futur coéquipier. Comment t'as vécu ça? Est-ce qu'on n'en fait pas un fromage aussi de toute cette histoire?
Je pense qu'on est justement pas habitué peut-être à avoir ce type d'accident en course. C'est pour ça que ça fait autant de débats, je pense. Des break checks entre guillemets, c'est pas nouveau. Je pense que toutes les catégories sportives autorisées, ça existe. Je pense qu'on a toujours des jeux vidéo, on se fait toujours tous ces break checks. Après, effectivement, sur des virages aussi rapides, l'erreur, elle est compliquée à corriger. Et je pense qu'effectivement, il n'y aurait pas, le virage serait différent. Ça se trouve, il y aurait juste eu un crash. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu une si grosse frayeur pour George Russell. Parce que clairement, j'ai pu lire que, il avait pensé au drapeau rouge pour garder sa place, et tout ça. Je pense que quand tu finis sur le teco à 90 degrés et que tu sais que tu es en plein milieu de la piste, je pense pas que tu penses à tes points du fond de grille, mais juste à te dire s'il n'y a pas, est-ce que vous pouvez arrêter tout le monde pour éviter que je me prenne un type et à lancer à 250, ça pourrait être pas mal, quoi. Je sais pas comment est construit une F1 au niveau du plancher, si elle est faite pour résister à un choc aussi violent. On sait que c'est devant, sur les côtés, c'est déjà bien résistant, mais dessous, je ne sais pas comment c'est fait. Mais si c'était un percu à 90 degrés comme ça, je ne veux pas imaginer ce que ça aurait pu donner, parce que ça aurait vraiment pu être très grave.
Elle était un peu posée de biais, donc je pense que si tu avais Stroll qui était arrivé, il l'aurait tapé en dessous et il aurait fait des volts
il aurait pu s'envoler. Mais du coup, tu vois, ça aurait limite, tu aurais eu potentiellement l'arceau qui tape, la cheminée qui tape, lui derrière il décolle, comment il retape derrière. Et même lui, du coup, on voit bien, il se désangle pas tout de suite, il attend vraiment avant de sortir.
C'était le plus safe. Il était plus safe à rester dans la voiture que de sortir et se prendre peut-être une voiture qui arrivait.
Je pense que Russell a eu le bon réflexe. Après, concernant Alonso, c'est pas la première fois qu'il fait ça. J'ai vu des clips où justement, dans les années 2000 et quelques, il faisait déjà ce move-là en Australie et au même virage de grosso modo freiner plus tôt pour accélérer plus tôt. Après, son argumentation c'était de dire qu'il avait un problème moteur.
Ah oui.
Est-ce que il a profité de ça on le voit après sur le tour de décélération où on entend galérer un peu tout ça. Donc je sais pas si c'était vraiment ou est-ce que c'est...
Il est fort.
Donc, la pénalité, par contre, elle est huge. 20 secondes, quand tu sais que, par exemple, Verstappen a pris 10 secondes pour la break check Hamilton à Jeddah en 2021. Donc, Hamilton avait fini par faire un pit stop pour changer l'aileron, je crois. Ou non,
il avait fait continué sans changer l'aileron.
Oui, d'ailleurs, la Mercedes était
plus rapide. Hein.
mais du coup, c'est vrai que du coup, ça, et il avait pris 10 secondes de pénalité, il me semble. Mais c'est vrai que du coup, la pénalité quand même. Alors, je pense qu'ils ont voulu marquer les esprits aussi, de se dire, si vous êtes responsable de ça, je pense que ça devient un peu une jurisprudence pour la saison.
C'est que le souci de la pénalité, c'est qu'elle est donnée uniquement quand il y a accrochage. Parce que c'est le genre de truc, tu le vois très souvent dans les courses.
Bien sûr.
Quand ça arrive et que derrière, ça maîtrise, il n'y a pas de sanction. Donc finalement, t'en es à faire du minority report, c'est à savoir, c'est est-ce que le mec, son intention dans le futur, machin, etc.
Ouais,
et
ça
devient inextricable pour la FIA.
Je pense qu'aussi, il y a le facteur aussi, effectivement, est-ce qu'il y a un crash ou pas? Parce que du coup... clairement, là, on est sur un virage rapide. Tu fais ça sur le dernier secteur. Potentiellement, Russell, il ne le ressent même pas ou il se fait break-check, mais il est capable de le gérer. Là, pour le coup, je ne connais pas la télémétrie, mais ils arrivent quand même pleine balle. Derrière, tu n'es pas censé normalement freiner. Donc, je pense que freiner plus tôt, ça on l'a vu, bon, il l'a fait en Hongrie, tu vois, réaccélérer très tard en Hongrie quand il donne la victoire à Ocon pour défendre contre Hamilton, tu vois, il réaccélère, mais très tard par rapport à un tour normal. Mais parce que du coup, c'est dans une défense. Là, on sait que le virage, t'as pas besoin de freiner, oui, c'est juste du relâcher, réaccélérer. Et là, il arrive, il relâche bien plus tôt, il freine, il met un coup de frein, enfin, il fait tout ce qu'il faut pas faire normalement pour un tour normal, et surtout quand on voit la télémétrie avant. Okay. On pouvait se dire, tiens, il le fait sur certains virages lents parce que du coup, il sait qu'il a la main. Là, normalement, en plus, il n'y a pas moyen de dépasser pour Russell à ce niveau-là, quoi. Okay. Ça va tellement vite qu'il n'y a pas moyen de dépasser. Donc, je pense que la pénalité est justifiée. Après, bon. Aston n'a toujours pas porté réclamation. Visiblement, okay. Même pour eux, je pense qu'ils n'ont pas les.
Bah, c'est tellement visible. C'est tellement visible ce qu'il a voulu faire. Fernando, est-ce que tu partages aussi cet avis? Comment tu vois cette action du côté Alonso, Russell, Aston, Mercedes?
Il a joué, il a perdu. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, oui, c'était une manœuvre qui lui a voulu tenter puisque c'est un joueur, c'est un fourbe. Il a voulu effectivement tester son adversaire. Le problème, c'est que je pense que quand il fait cette manœuvre, il ne se doute pas que George allait perdre la voiture. Honnêtement, hein, je pense pas que c'était son but principal. L'idée c'était effectivement en technique de pilotage de dire écoute, je ralentis peut-être un peu plus pour me gagner du temps après et creuser l'écart sans pour autant causer un accident. Le problème c'est que, encore une fois, on interdit ce genre de mouvement en règle générale dans des zones de freinage. Là, on est à l'approche d'un virage, il freine plus qu'à l'habitude, ce qui déstabilise son adversaire à deux raisons. C'est que, un, il se rapproche un peu trop vite qu'à la normale. La deuxième raison, c'est que la voiture de George s'approchant de celle d'Alonso, il y a moins d'appui sur la voiture. Donc forcément, ce qui aggrave le phénomène de perte de contrôle de la voiture de George. Maintenant, derrière, je pense et je suis assez d'accord avec le raisonnement de dire, là, on a mis 20 secondes pour dire, ça... Typiquement, les gars, maintenant, c'est la première. Enfin, c'est pas la première fois que ça se fait, mais globalement, c'est la première fois que ça se termine avec un résultat comme ça. C'est la dernière fois, et donc l'idée, c'est que ça ne se reproduise pas. Aston n'a pas aujourd'hui porté réclamation parce que je pense et je suis certain que, au vu de la télémétrie, ils peuvent pas dire non. Il a freiné, il a trop ralenti. C'est indéniable. Enfin, je veux dire, faut vraiment un avocat du diable plus pour dire mais non, il y avait autre chose. Bref, ça c'est pour le cas, on va dire l'acte malveillant de Fernando sans forcément avoir volonté de la donner. C'est le premier point. Deuxième point concernant le drapeau rouge ou VSC. VSC, après réflexion, c'était la bonne chose à faire. Drapeau rouge, en fait, je rappelle un des points, c'est que même si ça aurait été drapeau jaune avec safety car ou virtual safety car, ça demande un arrêt brutal du rythme de course et que tout le monde arrête. Je rappelle un des points, c'était Suzuka, je sais plus quelle année, où Pierre Gasly, sous drapeau rouge, oui, est passé comme une balle. Et on était sous drapeau rouge.
Parce qu'il rattrapait...
Voilà. Il y a un autre effet, c'est que sous VSC, ils doivent contrôler un certain écart et certains seraient tentés de voir grappiller quelques secondes en étant aussi sous VSC. Donc finalement, la logique, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de réelle solution à 100% fiable dans ce type de constat. L'idée, c'est de casser le rythme et en étant en fin de course, pour éviter d'être en fin de course sous drapeau rouge, la seule solution qui vaille, c'était la VSC. Voilà. Okay. Donc, voilà. Sous le canapé.
C'est le résultat qui a donné raison. Il y aurait eu un accident avec
on peut vociférer. On aurait dit. On peut vociférer sur son canapé. Pour le coup, je trouve que la FIA a pris la bonne décision de mettre cette VSC là. Donc, c'est très bien. Voilà.
D'accord.
Maintenant, l'idée de spéculer sur que Fernando soit chez Mercedes l'année prochaine. Alors, Takuma, je t'adore. Tu es un excellent narrateur. Par contre, effectivement, théorie du complot, c'est très bien, mais je ne sais pas si ça va en Madame Irma, si ça va vraiment se concrétiser. Moi, je verrais plutôt un Alex Albon chez Mercedes.
Ok, je vais laisser le micro à Niki pour nous donner un peu son ressenti sur cet incident. Et puis, je vais te laisser aussi enchaîner sur... parce qu'on a, là, on a déjà fait plus d'une heure dix d'émission, donc on va peut-être essayer d'avancer aussi, nous, de notre côté. Et donc, je te laisse donner ton avis sur cet incident. Et puis après, tu choisis sur les écuries. Derrière, on a Alpine, dont il faut peut-être un peu parler. On a les As, qui sont pas si mauvaises que ça cette saison. Et puis, en tout cas, tu parles d'une écurie après dont tu as envie de parler.
Tout va... sur l'incident, effectivement, il y a aussi sur la pénalité qui a été donnée à Alonso. Concrètement, si Russell se crache pas, il prend pas de pénalité. Et si, il casse son aileron ou quoi, si l'accident n'est pas si grave que ça, peut-être qu'il prend pas 20 secondes. Donc, je rejoins, complètement Fernando, en disant ils ont voulu marquer les esprits. Là, c'est un comportement qui était... la manœuvre d'Alonso, c'est une manœuvre dangereuse, sans forcément qu'il y ait volonté de nuire directement. Mais malgré tout, c'est une manœuvre dangereuse, donc ils ont voulu marquer les esprits. Et ça, c'est quand même plutôt réussi, je trouve, au final. Parce que la preuve, c'est qu'on en parle... et que ça fait parler tout le microcosme de la F1. Et
je rejoins aussi l'avis... j'arrête de faire ça quand je pilote. C'est terminé.
Sur l'autoroute, voie de gauche, c'est pas...
Sur la rocade de Toulouse. C'est terminé, cette histoire.
Et je rejoins aussi l'avis de Fernando qui dit, vu que Aston n'a pas porté réclamation... alors même qu'ils ont la réputation d'être durs en affaires entre guillemets sur tout ce qui est réclamation, pénalité, etc.
Procédurier.
C'est que très procédurier et puis très fort pour défendre les pénalités. Là, ils ont trop rien dit. Alonso, il a dit oui, j'ai fait ça. Donc finalement, c'est que ils reconnaissent leur tort et ils sont, je pense, bien contents. Ils prennent les 20 secondes et ils disent pardon, on ne commencera pas, quoi.
Yes.
Et okay. Enfin, et du coup, pour l'autre écurie, on peut parler des. J'hésite entre As et Williams parce que Williams.
Ta carte blanche, tu es obligé de choisir. Ta carte blanche, mais tu es obligé.
On va parler de Williams alors, que Williams, j'ai pas trop compris le move de dire Albon se crash en essai libre, je crois.
Ouais.
On n'a pas assez de voitures, je sais plus ce qui me manquait, mais bref, ils n'avaient pas
les châssis.
Ils n'avaient pas assez de voitures.
Le châssis qui était mort. Ils n'avaient pas
donc, on a besoin d'une autre voiture, on n'en a pas. Du coup, Logan, tu vas prêter ta voiture à Albon. Tout ça pour que, malgré, il y a eu trois abandons. Trois abandons en plus qui sont logiquement devant la Williams. Hein. C'est pas, c'est pas Bottas et Ocon qui ont abandonné. Hein. C'est Russell, Hamilton, Verstappen. Donc, trois pilotes du top 10. Ça, plus la pénalité de 20 secondes de Alonso pour que, au final, Albon se retrouve 11e. Non, mais là, et c'est il comme s'est fait manger par les deux As.
C'est comme pour l'accident de Russell. S'il avait été dans les points, on aurait dit que ça aurait été génial comme décision.
Ouais, mais est-ce que Sargent aurait fait, pire
non,
ou quoi? Enfin,
voilà, c'est très bien qu'il aurait fait, pas fait mieux. Il n'y a pas de débat pour moi.
Oui.
Sportivement parlant, tu peux pas, t'as un pilote qui a mis des points alors que l'autre qui trosse les P20, P19. Tu peux pas dire ça.
Avec les Alpines, il peut espérer une P18.
Ouais.
Ok.
Non, mais clairement, ça
visiblement, il y a pas adhésion totale à ton avis.
Non, mais j'ai aucun. Ça fait partie du débat, mais Mais ouais, je sais pas. Enfin, j'étais un peu déçu quand même de ça. Je m'attendais quand même, malgré tout, bah, un peu mieux de la part de Albon. Surtout de se faire manger par les deux As. C'est chiant, quoi. C'est un peu chiant pour Williams.
Et toi, globalement, Niki, t'aurais été partisan de dire, ben, Albon s'est crashé, tant pis pour lui, finalement, et c'est...
Pourquoi pas, hein, oui. Après, ça s'entend, enfin, d'un point de vue écurie, en disant, bah, il y a possibilité, peut-être, d'aller chercher un point. Ouais.
Après, on
ça, ça se défend, mais j'ai, malgré tout, j'ai quand même un peu de mal avec cette logique d'expert comptable.
T'es trop romantique, Niki.
Voilà,
c'est des millions en jeu.
Tu oublies que c'est la F1, t'as un monde de brut. Hein.
Mm. Ah ouais. Puis, bon, maintenant, enfin, avec le budget cap, certaines écuries peuvent être rentables. Des écuries comme Williams, où potentiellement un point à la fin de saison peut te faire gagner des millions de dollars. Mm. Si t'as un pilote qui est capable d'aller les chercher, mise tout sur lui, quoi. Donc, surtout qu'ils ont traversé le monde, enfin, ils ont traversé la terre entière pour faire une course. Certes, hein, il s'est déjà crashé l'année dernière quasi au même endroit, il se crache quasi pareil. Après, James Wolff l'explique très bien, hein, c'est qu'ils ont poussé le développement de la voiture jusqu'au bout, ils n'ont pas eu le temps de produire un troisième châssis. Hein. Suzuka, ils n'auront pas de troisième châssis non plus. En plus, ils vont avoir à peine 15 jours pour réparer le deuxième. Donc, ils n'ont pas intérêt à faire des gros crashs encore. Sur les grands prix suivants, parce que je suis même pas sûr qu'à Miami ils en aient un troisième. Donc, et en plus avec le budget de cap, tu peux pas te permettre de dire tiens, on fait un troisième dès le départ de la saison, alors potentiellement le châssis est à changer ou t'as des grosses modifs à faire dessus, quoi.
Sachant que l'ami Sargent, il en a quand même mis dehors pas mal la saison dernière.
Mm-hmm. Ouais, en plus.
Oui, c'est vrai.
Donc mais on franchement sportivement, tous ceux, je pense, qui sont dans le milieu ou quoi, personne qui a dit bah ouais dommage pour lui, mais en fait le fait est que bah tu peux pas te permettre de laisser ton pilote top 1 sur le bas côté juste parce que il a s'est planté une fois, quoi.
Ok,
ouais. Je pense que ça aurait été peut-être un peu différent sur les top écurie, dans le sens où il y a peut-être pas forcément de numéro 1 numéro 2, mais alors là il y a pas de question à se poser.
Ok, bon, t'as le micro, Charles Carrefour, je te laisse enchaîner avec un autre point à signaler sur les écuries dont on n'a pas parlé, ou quelque chose que tu as envie d'ajouter sur le Grand Prix.
Alors, on a fait quand même pas mal de choses sur les écuries. Après, on peut rapidement passer sur As, qui a fait plutôt bonne course, qui enchaîne. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire comme l'année dernière, où chaque année, ils ne développent pas trop mal leur voiture, mais vu qu'ils ne la développent pas au cours de la saison, est-ce qu'ils vont nous pondre une voiture qui a un one-shot? Et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On les entend pas trop non plus. Ça m'a fait drôle de voir Günther Steiner faire les interviews de fin.
Qu'est-ce que c'était long.
C'était long et incompréhensible. Leclerc comprenait pas trop ce qu'il voulait dire. Donc, quand on est là, c'était quelque chose. Mais bon, pour le moment, peut-être que Lance en parlera mieux que moi, mais pour le moment, plutôt convaincu, en tout cas, peut-être la nouvelle dynamique qui se passe chez As. Mais rien de plus à dire après sur les autres écuries. Je pense qu'il n'y a rien de mirobolant, hein, ce qu'on sait, ce qui a été dit depuis les premiers Grands Prix. Sur les autres, il n'y a pas eu de miracle, en tout cas, sur ce troisième GP de la saison.
Ok, bah écoute, Lance, à toi le micro maintenant. Est-ce que tu as envie de nous parler de Bottas, de Gasly? Fais ton choix.
Ah, c'est moi qui fais les poubelles, en fait, c'est ça. Je ramasse les poubelles. Ah, c'est ça. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, là, on parle de quatre voitures qui, sauf Hécatombe, avec un méga accident avec 12 voitures impliquées, ne marqueront pas de points cette saison. Enfin, tel que au jour d'aujourd'hui, avec cette mauvaise expression qui n'existe pas dans la langue française, c'est compliqué pour elles qu'elles espèrent marquer un point. Même si Esteban, pour le coup, a vraiment pas de bol, parce qu'il était quand même parti pour au moins essayer d'aller frapper à la porte de la P11, de la P12, ce qui est magnifique, hein, dans le monde d'Alpine en ce moment.
faire une P12, les mecs, ils sortent le champagne. D'ailleurs, on a juste vu Esteban qualifié pour la Q2, c'était le plus beau jour de sa vie. Hein. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même à un niveau où l'année dernière, on parlait quand même que c'était une déception si Alpine ne passait pas en Q3, enfin, au moins à un moment de la saison. Après, on avait vite compris. Mais là, c'est vrai que tu as ce tir-off qui l'oblige à faire un arrêt plus tôt, et donc à faire trois arrêts. Je crois que c'est les seuls à faire trois arrêts, Esteban. Mais Pierrot, on l'a pas vu de la course, il était inexistant. Donc là, pour le coup, les mecs, ils essayent de... Tu sens que c'est la méthode Coué. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en bas que, comme dirait l'autre, hein, quand... Si tu touches le fond, tu ne peux faire que remonter.
Ah, on l'avait déjà dit l'émission précédente.
Mais j'ai quand même l'impression que là, ils ont trouvé le bouchon au fond de la piscine et qu'ils peuvent peut-être rentrer dans le bouchon pour aller encore plus bas dans le fond, quoi. Donc,
j'ai trouvé qui est encore plus profond que les Alpines. Les mécanos qui s'occupent des stands, des arrêts au stand chez Sauber.
Chez Zerator Team, là.
Zerator Team.
Z-Event, Z-Event tous les week-ends. Et eux, ils enchaînent. Et là, franchement, ils sont sur un beau trip.
Ouais, ils sont très très forts, mais Alpine, ils sont pas non plus nickel sur les arrêts.
Ils sont éblouis par la couleur de la voiture, hein, parce que c'est vraiment ça. Ils se prennent ça, ils font waouh!
Il y a des choses quand même incroyables.
Ils ont la rétine cramée, les gars.
Je crois que c'est le même pneu en plus, hein, par rapport au dernier Grand Prix. C'est le même. Hein.
Alors, c'est le même. Ouais. Et une chose encore incroyable, c'est qu'en théorie, l'écrou est solidaire de la jante, et là, l'écrou s'est barré.
T'as fini Lens, t'as réglé le compte d'Alpine ou...
Ouais, bon, après, est-ce qu'on a besoin de tirer encore plus sur l'ambulance? Même une ambulance va plus vite qu'une Alpine en ce moment.
C'est ça.
Limite qui file la safety car ou la Medicar, hein, je pense qu'elle ira plus vite que l'Alpine. Mais c'est vrai que pour le coup, on a juste à espérer les modifs qui vont arriver à peu près en même temps que les autres. Mais bon, si les autres font des modifs et qu'ils vont encore plus vite, limite, il faudra regarder le 107% pour les Alpines. Hein. Donc,
okay. On me dit que Alpine a fait son meilleur tour sous safety car.
Et tu vois, Fernando, il est encore pire que moi.
Bah, c'est à lui de parler maintenant, c'est à lui de clore un peu notre analyse très pointue et fine de ce Grand Prix d'Australie. Fernando.
Je vais clôturer, donc je vais pas revenir sur l'écurie verte qu'on a vue que au stand, visiblement. Donc je vais pas en parler et je vais revenir par contre sur un des points qui je pense va être suivi sur les autres grands prix et dont récemment on a parlé en dehors de la piste, c'est le cas Ricciardo qui visiblement sent plus très bon puisque là où j'étais assez content de voir que, alors même si c'était assez infantilisant on va dire la manière dont Tsunoda avait réagi lors du premier Grand Prix, je trouve très honnêtement qu'il a beaucoup plus de talent sur la piste que Ricciardo, et ça redonne du crédit par rapport au switch qu'il avait eu à Bahreïn. Là, je suis désolé, mais il est inexistant, et honnêtement, s'il ne se ressaisit pas, au cours de saison, il va y avoir du mouvement, et Ricciardo ne sera plus en Formule 1.
Ah bah, moi, de ce que j'ai vu, c'est si Miami ne performe pas, c'est show. Hein.
Voilà. Alors, il y avait ça.
Vu, hein. Il a encore 2 GP pour performer. Hein.
2 GP, mais apparemment, ça a été démenti. Ça a été démenti par Helmut Marko. Okay. Mais il y a quand même cette histoire de faire ses preuves avant l'été, de ce que j'ai compris, avant la trêve estivale, pour qu'en gros, il puisse redorer un peu son blason. Mais là globalement ouais,
Marco qui démentit c'est comme un président de foot qui dit j'ai confiance en mon entraîneur, hein. c'est dans la semaine t'es viré, hein. Marco qui dit non t'inquiète, tu peux déjà faire tes cartons, hein.
Non, mais ça, on est bien d'accord, c'est pour ça que ça vaut ce que ça vaut, mais dans l'idée c'est que globalement voilà, pour terminer sur le ce Grand Prix-là et on aura fait toutes les écuries, Visa Red Bull Racing, il va y avoir du changement en cours d'année et Ricciardo fera pas long feu.
Ok, oui. Eh ben, dis donc.
C'est Lawson qui reviendrait dans ce cas-là.
Oui. Ben oui.
Oui, oui.
Oui, c'est exactement ça.
Ok. Bon, mais c'est le moment. Attends, quelque chose à dire, Niki ? T'avais un truc là.
Non, pas du tout. Je réfléchissais à haute voix.
Ok, ben on va écouter les 5 infos inutiles de la semaine de Sébastien Vettel. C'est parti.
C'est box, 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 box.
Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. George Russell n'a jamais terminé un Grand Prix remporté par Carlos Sainz. Silverstone 2022, Singapour 2023 et Australie 2024. Et même encore plus étonnant, voici quelques similitudes entre Singapour 2023 et Australie 2024. Verstappen a un problème de fiabilité, Russell se crache dans le dernier tour, Norris est sur le podium et Sainz gagne. Comme la technique de l'ablation d'organes a l'air de fonctionner, Alpine envisage d'en faire enlever quelques-uns à ses pilotes pour gagner du poids sur leur tracteur. Sauber a écopé de 5000 euros d'amende parce qu'ils ont pété un bouvon, perdu un écrou de roue. Comparé au Grand Prix précédent, Max a passé plus de temps à l'écran. Est-ce que les sponsors sont satisfaits? Pas sûr, vu qu'ils n'étaient pas en voiture. D'un point de vue australien, Max a perdu la course, mais d'un autre point de vue d'européen, il était premier du classement. Vous me croyez pas? Pourtant, les Australiens vivent la tête en bas, donc si on retourne le classement de la course, il est en tête. Ce mec est vraiment dans le turfu. C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao.
Ouais, pas mal de choses intéressantes dans les infos de la semaine de Sébastien Vettel. Encore un très bon usage de la Data Room à Radio Merguez & Co. Et puis bon, c'est assez piquant encore une fois. C'est le moment de parler des pronostics pour ce prochain Grand Prix qui est dans 15 jours au Japon. Et donc au final c'est aussi le moment de faire le point sur ce qui avait été annoncé du côté barbecue F1 pour ce Grand Prix d'Australie. Évidemment, tout le monde avait annoncé une victoire de Max Verstappen, qu'on le veuille ou non, effectivement Verstappen qui faisait la razzia depuis maintenant plein de Grands Prix et qui abandonne cette fois-ci. Donc au final les pronostics se cassent le nez tous de leur côté. Je vais demander un peu son avis à Niki. Que penses-tu? Qu'envisages-tu du côté du Japon? Renouveau Red Bull, encore les Ferrari au premier plan, une performance de...
Oh oui, bah là, la Verstappen, il va s'énerver là. Là, il va mettre un tour de, il va mettre un tour d'avance au quatrième là.
D'accord.
Donc oui, Verstappen premier sans trop de contestation possible. J'ai bien envie de mettre Leclerc et Norris en 2 et 3.
Ok. Donc toi, t'avais annoncé Charles Leclerc en 2 et Piastri
Leclerc
en 3.
Et Piastri.
Piastri en 3 sur
et
le
Piastri qui a le podium moral du fait du swap.
D'accord, mais sachant que ça rapporte que 22,5% des points. Les podiums moraux, c'est 22,5% des points. C'est comme ça. Lent au Japon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on a un Yuki qui va marquer des big points. Comment ça se passe?
Moi, j'avoue que Carlos m'a quand même impressionné sur son retour, sur sa régularité depuis le début de saison. On l'a dit, le mec, il est relâché. Je pense que ça va se poursuivre au Japon, mais pas assez avec un Verstappen qui aura pour le coup le couteau entre les dents et une Red Bull qui va peut-être recevoir ses premières améliorations. Donc je pense que ça va être un cavalier seul. De là à ce qu'ils remettent une vingtaine de secondes sur le deuxième comme l'année dernière, on n'ira peut-être pas jusque là et encore. Donc Max premier, Carlos 2 et Leclerc 3.
Eh bien, dis donc. Fernando, on reste calme du côté Ferrari, là, on s'emballe pas. C'était juste une victoire et puis après on va revenir aux choses normales.
Écoute, je crois que j'avais mis Verstappen, Leclerc, Sainz.
Non. Alors j'ai pas. Je pense que t'as essayé de la. Comment dire? T'as essayé de tenter une escroquerie au niveau des pronos du côté
non,
de.
Non, c'est pas vrai.
Je pense, je crois que tu as participé à l'émission, tu as annoncé nos pronos, et après, quand on dans notre discussion barbecue F1, tu as annoncé un autre.
Ah ouais, j'ai fait quoi?
Parce que pour moi, tu avais annoncé Leclerc Pérez, mais après, j'ai même pas noté ce que tu avais mis. Mais je crois que tu avais derrière dit non, en fait, c'est Leclerc Sainz.
Il me semble que ouais, j'avais mis. On pourrait regarder, mais bon, enfin, ça, on comptera dans le tableau Excel à la fin. du coup, je vais rester sur Max Verstappen, mais je vais swapper entre Sainz et Leclerc.
Donc tu dis...
Sainz en 2 et Leclerc en 3.
Ok. Charles ?
Alors moi, il me semble que j'avais mis Sainz, Leclerc, Norris en prono.
Pardon ? Non, mais on aura le transcript avec ChatGPT, le transcript de notre... Je vais écouter.
Je me rappelle plus, mais de tête c'était à peu près ça. Et du coup,
c'est pas possible. On va devoir. Il va falloir faire appel à un huissier, tu vois. On avait enlevé cette ligne du budget de production là. Mais après, il y a tellement de caisses de champagne en jeu que il faudra se calmer.
Si je peux faire mon pari dimanche à 9h, moi ça me va aussi.
Il y en a qui font ça, et ils ont que 22,5% des points qui gagnent aussi. Voilà.
Ça fait partie des contrats moraux, non ?
Tout à fait.
Oui. Alors, si tu fais ton prono à 9h et que c'est un podium moral,
là c'est compliqué. 22% des 22%. Il y a une péréquation à faire, mais voilà.
Plus là, c'est 22% des 22%, voilà. Au final, tu perds des points.
Plus le pronostic, il arrive après les essais libres, la première session, deuxième session, troisième session, qualif. Si t'as le prono, genre après la Q1, après la Q2, t'as le prono après la Q3, enfin, voilà, il y a toujours, c'est un barème dégressif. Ouais.
Et après, potentiellement des potentielles pénalités, parce que Pérez a été par exemple pénalisé. Donc tu vois, tu peux aussi.
Tout à fait, il y a un tableau Excel qui est très au point, qui est sur mon ordi avec un truc sécurisé, évidemment.
Mais du coup, je vais retenter un Verstappen Leclerc. Et cette fois-ci, je mettrai Sainz.
D'accord.
Bizarrement, Hamilton a disparu des radars.
Pérez aussi, hein. Et Sergio Pérez aussi, hein.
C'est ça.
Ouais, bah franchement, il n'aurait pas Verstappen, on aurait eu une saison 2023 plutôt alléchante. Hein.
Moi, j'annonce une victoire de Charles Leclerc, suivi de Max Verstappen, suivi de Carlos Sainz.
Ah. Ah ouais.
Ça joue la cote. C'est bon.
C'est 125% des points.
Faut bien quand même que
ne pas mettre Verstappen sur le podium, ça te. Je pense qu'on peut multiplier tes points par 50. Hein.
Oui. Après, bon, au bout d'un moment aussi, on se rend compte que si les cotes elles sont ultra élevées, c'est aussi que c'est ultra improbable. Mais bon, c'est logique. Oui.
Je vais renforcer la porte ouverte à Suzuka dans 15 jours. Hein.
le degré de confiance. Je pense qu'on peut parier aussi sur la pluie ou sur le soleil de Suzuka. Là,
mais voilà,
on va dire quelque chose aussi.
Et vous êtes dans le même règle que dans les stats, c'est pareil. Ça vaut le même nombre de. Ça vaut son pesant d'or aussi.
Ok.
La météo japonaise aussi forte que la météo française. Ça sera compliqué.
D'accord. Bon, bah, les gars, merci. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce Grand Prix. On fait plus d'une heure et demie d'émission. C'est du costaud, les gars. Bravo. C'était un plaisir d'être avec vous autour du barbecue. Et puis, on se retrouve après le Grand Prix du Japon. Salut, les gars. Ciao, ciao.
Des bisous. Ciao.
Salut.